dans l'histoire allemande, il y a eu des tentatives de révolution. Bon, la plus célèbre dans l'histoire allemande étant celle de 1848, qui a finalement échoué. Pourquoi ? Parce que, à l'époque, la bourgeoisie, qui incarnait notamment le libéralisme, entre autres, a finalement rallié les forces autoritaires. Donc ça, c'est le premier point. Donc 1848, d'ailleurs, l'histoire allemande qualifie cette révolution de révolution échouée, gescheiterte Revolution, et donc 1989 est en fait la première qui a débouché d'abord sur un projet politique, à savoir l'unification, mais surtout un projet politique pacifiste. C'est-à-dire que cette révolution d'en bas a eu lieu sans victimes, sans violence. Et donc pour les Allemands, c'est en effet la première révolution politique réussie venue du peuple.
Et justement, comment on peut expliquer que ces événements se soient déroulés de façon pacifique ?
Alors d'une part, il ne faut pas sous-estimer le fait que dans la société est-allemande, avant même la chute du mur, il y avait déjà des mouvements contestataires, donc ce n'est pas, une contestation qui est née du jour au lendemain. On a à l'esprit en octobre toutes ces marches, ce qu'on appelle les marches du lundi, où des gens, notamment issus de l'église protestante, mais pas seulement, défilaient dans les rues, montraient quand même leur désapprobation du régime en place, et déjà, bien avant, en mai 1989, à l'occasion d'élections municipales truquées en Allemagne de l'Est, il y avait eu certains citoyens qui s'étaient regroupés pour protester contre la mainmise totale de l'État communiste à l'époque sur la vie politique, sur la vie sociale. Et donc, il y a dans la société allemande de l'Est, à l'époque, en 89-88, déjà, un courant protestataire qui mise sur une révolution pacifiste. Déjà, le terme est dans les esprits.
Dans quelle mesure l'événement de la chute du mur de Berlin est le résultat d'un engagement européen plus large qu'une révolution nationale interne ?
Alors ça, c'est un élément tout à fait fondamental, c'est-à-dire que, surtout chez Helmut Kohl à l'époque, dans son esprit, l'unité allemande n'était acceptable pour les autres partenaires de l'Union européenne que dans un cadre européen. C'est-à-dire que l'Allemagne réunifiée ne devait plus faire peur. C'est d'ailleurs pour ça que dès son premier plan, même s'il a été critiqué de novembre 1989 sur une unification, même si ce n'est pas mentionné tel quel, l'unification de l'Allemagne, tout de suite, il dit, mais tout cela doit avoir lieu dans un cadre européen. Et donc, c'est vrai que tout au long des années 89-90, cette pensée européenne a été intimement présente chez les dirigeants ouest-allemands notamment, parce que dans leur esprit, c'était une partie de l'évolution de l'Europe. Et on a bien vu d'ailleurs par la suite que Helmut Kohl a cédé, entre guillemets, beaucoup plus sur la thématique européenne qu'il ne l'avait fait dans les années 88-89. Et on sait que ça a débouché ensuite sur la monnaie unique, l'abandon du mark par l'Allemagne, tout ça, ça a germé à cette époque.
Quelle est l'importance pour l'Allemagne de maintenir vive la mémoire de cette période de l'histoire, en particulier pour les jeunes générations qui, paradoxalement, n'ont pas connu cette période ?
Il y a la volonté, comme c'est la première révolution pacifique de l'histoire allemande, d'en faire vraiment un vrai symbole de ce qu'est capable de faire l'Allemagne aussi. Parce que là, on voit bien qu'avec la nouvelle génération de dirigeants politiques, incarnée très bien par Mme Merkel d'ailleurs, il y a la volonté de relire l'histoire, c'est-à-dire de dire, dans l'histoire allemande, il y a des phases sombres, tragiques que l'on connaît, et puis il y a des phases plus heureuses, plus bénéfiques, comme la révolution de 1989. Donc il faut que la jeunesse allemande intègre ces différentes notions. Et il y a la volonté donc de maintenir très fort ce souvenir.